I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Got gun. Holt left slot.
Dixie left. Key left.
Mercedes. Wide chip. Ricky.
Bieber left. 75. Katie. Omaha. We're good.
Last play of the game. Who's going to win it? Luck rolling out to the right. Ducks it up to Donnie Avery. Yeah!
Salut tout le monde, bienvenue dans l'épisode 683 du podcast Touchdown Actu. Je suis Raoul Villeroy, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission de preview de la semaine en NFL. Et cette semaine, j'accueille Raphaël Masmejean dans ce podcast. Salut Raphaël.
Salut Raoul, salut à tous.
Très heureux d'être avec toi Raphaël, on reprend les bonnes habitudes.
De même.
Et puis on reprend les bonnes habitudes de taper un peu sur les équipes qui ne réussissent pas dans cette ligue, puisque cette semaine on va parler des Saints de la Nouvelle-Orléans. Qu'est-ce qui ne va pas chez les Saints? Pourquoi est-ce que ça ne fonctionne pas? On parlera aussi de l'affiche de la semaine qui est inévitable forcément entre les 49ers et les Eagles, duel au sommet de la NFC. Et puis ensuite, comme d'habitude, vous avez l'habitude, vous connaissez bien le programme, c'est tous les pronos, les meilleures cotes. Et puis ben voilà, c'est tout. Ah si, il y aura peut-être au tout début, on va faire un toute petite interlude actu, mais vous allez voir tout de suite après le jingle. Raphaël, est-ce que tu es prêt?
Absolument.
Alors, c'est parti.
Actu, analyse, résultat, toute l'actu de la NFL, c'est sur touchdownactu.com.
Raphaël, on s'est dit qu'il y avait quand même un tout petit sujet d'actu qu'on voulait traiter avant de parler de nos amis des Saints, mais ce qui est sorti juste avant l'enregistrement de ce podcast, c'est que Aaron Rodgers, au début on a mis Aaron Rodgers est de retour, alors calmez-vous, Aaron Rodgers est sorti de la liste des blessés, donc ça veut dire concrètement qu'il a 21 jours pour réintégrer l'effectif des Jets, et que surtout pendant ce temps-là, il a le droit de s'entraîner avec l'équipe. Vous pouvez retrouver sur Touchdown Actu toutes les infos. Raphaël, est-ce qu'on y croit? On va juste faire ça, hein, mais est-ce qu'on y croit à un retour d'Aaron Rodgers d'ici la fin de la saison avec les Jets?
Je sais pas, 21 jours, ça veut dire à minima, là, je pense qu'il manquerait encore deux matchs, au moins quand même. Est-ce que vraiment ça vaut le coup de le faire revenir si les Jets d'ici 2-3 semaines n'ont que 4 victoires, que les playoffs sont morts, derrière une ligne offensive compliquée? Je sais pas. En fait, pour honnêtement, moi je ne sais pas si j'y crois ou pas. Je crois que ça réside vraiment dans le fait, est-ce que Aaron Rodgers veut un peu tâter le terrain avant l'an prochain, en fait. Je crois que ça se résume vraiment à ça. Et que vu comment le bonhomme est mystérieux ces dernières années, je pense qu'en fait personne ne sait vraiment. S'il faut y croire, tout simplement.
Ouais, bon, après, est-ce qu'il y a un vrai intérêt pour les Jets? Est-ce qu'il y a un vrai intérêt pour lui? Bon, je ne m'en rends pas trop compte. Mais voilà, c'était quand même un fait marquant de l'actualité de cette saison. Hein. On se souviendra quand même que ça aurait dû être l'arrivée d'Aaron Rodgers à New York et que ça aurait été un peu décalé. Reprenons donc le fil de notre podcast. En l'occurrence, on voulait parler des New Orleans Saints. Et surtout, en fait, qu'est-ce qui ne va pas dans cette équipe? Pourquoi ça ne fonctionne pas? Alors, on pose la question dans ce sens parce qu'il y a quand même beaucoup d'arguments sur le papier qui pourraient faire croire que cette équipe de New Orleans devrait mieux réussir que ça. Tu as un QB Pro Bowler, tu as beaucoup de playmakers, Kamara, Olave, Michael Thomas. Bon, Michael Thomas, il est blessé, mais il y a une défense qui est numéro 1 dans la passe, aux passes défendues, qui est numéro 2 aux interceptions, qui est numéro 7 aux yards encaissés dans les airs. Enfin, il y a beaucoup de choses que d'autres équipes aimeraient bien avoir alors qu'elles ont un bilan bien meilleur, ou en tout cas moins bon, ça dépend. Mais eux, leur bilan n'est que de 5-6, et vu la division, c'est dommage. Voilà, c'est... On peut partir là-dessus. Aujourd'hui, cette équipe des Saints, elle devrait écraser sa division, Raphaël.
Oui, 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 elle devrait écraser cette division par rapport au talent et aux certitudes en termes de vétérans qu'il y a dans l'effectif, notamment. Donc, ce qui fait qu'il y a effectivement un souci. Alors, moi, je le dis tout de suite, pour moi, les soucis qu'on peut remarquer chez les Saints ne sont pas en défense. Alors, autant il y a deux, trois éléments qui ne vont pas en défense, mais pour moi, c'est pas ce qui fait. C'est ce qui ne va pas en défense côté Saints. Les empêcherait d'être, si tu veux, d'être un prétendant au titre ou de gagner le Super Bowl. Par contre, ce qui ne va pas chez les Saints, c'est pas ce à cause de quoi ils ne sont qu'à 5 victoires dans leur division et qu'ils ne sont pas en tête de la division, si tu vois ce que je veux dire. C'est pas à cause d'une défense contre la course un peu moyenne qu'ils ne sont pas premiers de leur division facilement. C'est pas ça le problème. Voilà.
Déjà, tu élimines certains de mes arguments, c'est parfait, on gagne du temps, ça me va.
Donc pour moi, du coup j'enchaîne, mais pour moi, le cœur du problème, c'est l'attaque. Oui. C'est l'attaque qui est 29e en touchdown lors de ses passages en red zone, qui n'a marqué que 3 touchdowns sur les 32 ou 33 dernières possessions, donc ça fait à peu près les 4-5 derniers matchs. Voilà, pour moi le cœur du souci, il est en attaque, parce que c'est là aussi où t'as beaucoup de joueurs talentueux, et c'est parce que cette attaque est médiocre pour le moment que les Saints ne sont pas là facilement en tête de leur division. Donc c'est là-dessus que pour moi le souci est. Et je préciserai, mais tu me coupes si je dois m'arrêter et que c'est une autre question pour après, etc. Mais le problème pour moi vient même du coaching offensif.
Eh ben non, mais c'est même pas une question pour après, c'est une question pour maintenant. En fait, il y a le coaching. Moi au début, je voulais parler du coaching staff en général. Il y a un truc quand même qui moi me fait tilter un peu avec cette équipe des Saints. C'est que pendant très longtemps, on le sait, il y a eu Sean Payton, qui était alors on appelle ça un génie offensif, génie, je ne sais pas si le terme n'est pas un peu le galvaudé, mais qui était très porté sur l'attaque, qui avait une super attaque, qui roulait, qui fonctionnait, machin. Denis Allen, alors déjà Denis Allen, il n'a pas un CV déjà très reluisant de base, il est à 8 victoires et 28 défaites en 2 ans et 4 matchs à Oakland, à l'époque où les Raiders jouaient encore là-bas. Il a été coordinateur défensif des Saints pendant 7 ans. La défense n'était pas trop mauvaise, mais c'est pas ce qu'on regardait du côté de Nouvelle-Orléans. Et maintenant qu'il est devenu head coach, depuis 2 ans, il a un bilan de 12 victoires et 16 défaites. Est-ce que pour cette équipe-là, qui pendant très longtemps a été très offensive, de passer sur un coach qui a forcément une fibre un peu plus défensive, c'était pas déjà un peu risqué, en tout cas audacieux, je sais pas, mais est-ce que c'est pas un peu là aussi que le bas blesse? C'est qu'on passe d'une philosophie à une autre et que l'adaptation a du mal à se faire.
Ça en fait partie, clairement, surtout dans une ligue où on a quand même l'impression que la dynamique est plutôt coach offensif plus que défensif, on va le dire comme ça, en tout cas sur les postes de head coach. Donc ça a forcément déstabilisé un peu cette équipe, d'avoir quelqu'un qui maîtrise moins l'attaque. Et le problème, c'est que Denis Allen, à mon sens, s'est mal entouré sur le poste de coordinateur offensif. Et c'est là où, pour moi, actuellement, du côté des Saints, le principal problème, il est là. C'est le coordinateur offensif Pete Carmichael, qui n'est pas au niveau. C'est un des coordinateurs offensifs les moins créatifs, les moins innovants de la ligue. Enfin, quelques exemples un peu pour étayer, mais les Saints, c'est l'équipe qui joue le moins de play-action, c'est l'équipe qui fait le moins de ce qu'on appelle de motion avant le snap. Donc les motion, c'est les mouvements qu'un receveur ou qu'un coureur peut faire avant que le ballon soit snappé, pour finalement un peu déstabiliser la défense adverse, parce que tout d'un coup, le joueur passe sur une autre position dans le terrain, donc on ne sait pas vraiment ce que l'équipe va faire. Et les Saints sont la 31e équipe qui bouge le moins avant le snap, et comme de par hasard, c'est une attaque qui finalement ne déstabilise pas l'adversaire. Et je pense que tout ça... Tout le niveau sur play action, le niveau de motion, ça montre que Pete Carmichael n'est pas un génie offensif, mais à la limite, j'ai envie de te dire, tout le monde ne peut pas être Kyle Shanahan, non. Mike McDaniel, etc. Tout le monde ne peut pas. Donc, ok, admettons, il ne puisse pas être ce niveau-là, mais malgré tout, il y a quand même un delta, un entre-deux, j'ai envie de dire, entre être un génie offensif et ne pas du tout être innovant. Et moi, je trouve ça d'autant plus dommageable qu'en fait, il a le matériel pour être un peu innovant. Tu vois, il a des Alvin Kamara et des Tyson Hill que tu mais peux oui. faire bouger avant les snaps, que tu peux créer un peu de déstabilisation dans la défense. Pareil, c'est une attaque, c'est l'attaque de la ligue qui attaque le plus le jeu en profondeur, qui fait le plus de lancers de plus de 20 yards. Et là aussi, je trouve ça un peu dommage. Quand t'as un Michael Thomas qui est plutôt bon sur les zones intermédiaires, quand t'as un Alvin Kamara qui est plutôt bon sur les tracés courts, ce besoin, cette volonté. Voilà, ce besoin de tout le temps aller chercher la profondeur, je trouve ça dommageable par rapport à l'escouade qu'il a. Et c'est en ce sens que pour moi, le principal problème à l'heure actuelle, en tout cas, moi, la première solution vers laquelle j'irai, c'est de virer Pete Carmichael et de trouver un autre coordinateur offensif.
Tu sais, depuis quand Carmichael, il est coordinateur offensif des Saints ?
Je dirais au moins 4 ans, non ?
Ah, mais beaucoup plus que ça.
Ouais, déjà sous Peyton, ouais.
Oui, oui, 2009. C'est ça qui, moi, me choque un peu t'as aussi.
Raison, ouais, c'est
que, en fait, ça fonctionnait hyper bien sous Sean Payton. Mais alors, ça veut dire qu'il faisait quoi à ce moment-là, Carmichael ? Il faisait rien ?
Bah, c'est un peu le risque.
Et d'un coup, est-ce que c'est lui qui fait les appels de jeu offensifs ?
Oui.
Et c'est ça qui marche plus ?
Bah, il y a ça. Il y a Sean Payton qui n'est plus là pour chapeauter, finalement, l'attaque et la philosophie globale. Donc, t'as un Pete Carmichael qui se retrouve peut-être un peu esselé là-dessus et beaucoup plus en prise directe et ça marche pas. De plus, ils n'ont plus de Drew Brees et ça, forcément, bah, ça a un impact.
Ah bah oui. Mais Derek Carr, c'est ça sans savoir. Il y a une époque où on se demandait s'il était élite ou pas. Moi, je pense pas qu'il l'ait été un jour, mais ça, c'est pas non plus le plus mauvais quarterback de cette ligue.
Et de toute manière, quand tu regardes Derek Carr, il n'est pas au niveau que son contrat sous-entend, on va dire, chez les Saints. Hein. Cette année, il touche 37 millions de mémoire. Il est censé produire plus. Mais en même temps, quand tu regardes, il n'a lancé que 4 interceptions. Il a le deuxième taux le plus faible de la ligue d'interception rapporté au nombre de passes lancées. Donc,
il est un peu blessé d'ailleurs cette année, non ?
Ouais,
autant
il ne crée pas beaucoup d'actions positives, mais il n'en crée pas de négatives. Donc en fait, c'est problématique par rapport au salaire, mais c'est pas problématique sur le rendu final, c'est pas le principal problème. Donc c'est pour ça que je réinsiste, mais pour moi c'est Carmichael. Et si Denis Allen veut sauver sa place, il lui faut un fusible. Le fusible, c'est le coordinateur offensif, et voilà. Et je pense que si Denis Allen s'entête là-dedans, il va sombrer avec son coordinateur offensif. Les Saints rateront peut-être la qualif en play-off, et dans ce cas-là, bah, c'est au revoir tout le monde, merci, et adieu.
On va finir justement sur la carrière en play-off. D'abord, je voulais te poser une autre petite colle. J'ai été fouiller un peu le coaching staff des Saints. Est-ce que tu sais qui est leur coach de ligne offensive ? Ça, c'est rigolo.
Ligne offensive, non, j'avoue, je n'ai
alors,
pas ça.
Non, parce que personne ne connaît, sauf que là, en l'occurrence, c'est notre ami Doug Marrone.
Ah, ok.
Oui, notre ami Doug Marrone qui était coach des Jaguars. Il a repris fin 2016 et jusqu'en 2020.
Ouais.
Bon, il a fini à 23 victoires et 43 défaites. Mais notamment cette saison exceptionnelle où il va en finale AFC face aux Patriots et il perd parce qu'il ne prend pas le field goal avant la mi-temps. Là. Bon, bref. Mais...
Enfin, ouais.
Il part pas que à cause de ça.
Non, mais oui.
Mais pour la blague, on s'en souvient pour ça. Enfin bref. Donc c'est pour te dire que même sur d'autres postes, tu te dis pourquoi il y a des types comme ça qui sont encore là. Enfin bref.
Ouais.
Oui, je voulais qu'on finisse du coup parce que aujourd'hui il y a ces problèmes là. Moi j'allais te dire dans les problèmes, c'est qu'on n'utilise pas assez Taysom Hill, mais moi j'aime bien Taysom Hill donc bon.
Non, mais t'as raison, ça en fait partie.
Ça regroupe ça.
T'as un coordinateur offensif qui en fait ne sait pas. Pas, qui depuis un an ou deux ne sait plus utiliser Taysom Hill et j'ai en tête par exemple le match il y a 2 semaines contre les Vikings où Taysom Hill n'a qu'une portée, enfin une seule course, ça n'a pas grand intérêt de le faire courir qu'une seule fois. Il est là, il a un salaire qu'il mérite, il faut l'utiliser et le problème c'est que je pense que Carmichael est un peu perdu depuis un an et demi et voilà.
Oui, bon bah écoute, on verra ce que donnera la suite pour eux, mais effectivement s'ils veulent faire des changements c'est rapidement parce que la suite de la saison pour eux, j'ai regardé, c'est les Lions, les Panthers, les Giants, les Rams, les Buccaneers pardon, et les Falcons. Vu comme c'est parti et j'ai regardé le calendrier des Falcons, les deux risquent d'avoir à peu près le même bilan parce qu'ils sont capables de gagner tout voire de perdre tout là-dedans. Et donc ça risque de se décider en semaine 18 savoir lequel des deux va en play-off.
Oui, je pense que ça va se jouer là-dessus effectivement.
Mais en fait aujourd'hui je suis bien incapable de te dire lequel des deux va gagner parce que aucune des deux équipes ne m'inspire vraiment. Maintenant, on va pas se mentir, celui qui gagne, il fera un petit tour et puis c'est tout. Enfin,
oui, je
derrière.
Surtout qu'on l'a déjà dit dans une autre émission, je crois, mais celui qui gagne a priori rencontrera les Cowboys.
Oui, oui, oui. Ce qu'on s'est dit dimanche dans le fauteuil.
Vu, vu ce que les Cowboys montrent actuellement, je vois pas bien comment les Falcons ou les Saints iraient les embêter de manière concrète.
Ouais, on est assez d'accord. Donc bon, voilà, vous avez compris le problème des Saints, c'est ça. Maintenant, à voir comment ils veulent le résoudre, à voir s'ils le résolvent cette année ou pas. Et puis, à quoi ressemblera leur fin de saison, ça, l'avenir nous le dira. Nous, l'avenir, c'est l'affiche de la semaine et c'est tout de suite après le jingle. Évidemment, l'affiche de cette semaine 13, ça ne peut être que le match entre les 49ers de San Francisco à 8 victoires et 3 défaites et les Eagles de Philadelphie à 10 victoires et 1 défaite. Ça va se jouer dimanche à 22h25, c'est à Philadelphie. Quand on a regardé un peu le planning de la semaine, Raphaël, je t'ai dit « Ah, mais on parle tout le temps de ceux de là, mais en même temps, on ne peut pas passer à côté de cette affiche. »
Non, 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 effectivement, on ne peut pas passer à côté de cette affiche. T'as le leader de la NFC à une seule défaite, et puis j'ai envie de dire même les 49ers qui sont la deuxième équipe de la NFC, et globalement en plus c'est la revanche de la dernière finale NFC, une finale qui avait été un peu tendue, on se rappelle que Deebo Samuel notamment, le joueur des 49ers après le match, avait beaucoup dans la presse dit que les Eagles n'auraient pas dû gagner, que si Brock Purdy n'était pas sorti sur blessure, San Francisco aurait gagné facilement, blablabla, peut-être, fiction. Peu importe, mais en tout cas, revanche entre deux équipes qui s'apprécient pas et deux équipes qui ont le potentiel quand même pour truster cette finale NFC pendant quelques années à venir, donc ça peut être une vraie grosse rivalité, quoi.
Ouais, et en fait, tu vois, on a beaucoup parlé de ces deux équipes-là, donc d'abord, moi, je vais te poser la question classique que j'aime bien faire, c'est quel affrontement t'excite le plus entre attaque des 49ers, défense des Eagles et attaque des Eagles, défense des 49ers?
Et ben, je pense que ce que j'ai le plus envie de voir, c'est l'attaque des Eagles contre la défense des 49ers, parce que je pense que le match se jouera là-dessus, donc voilà.
Ok, et du coup j'ai été chercher des stats un peu sombres, un peu sous le manteau pour sortir des sentiers un peu battus. J'en ai une de chaque côté. D'abord, côté Eagles, il y a un truc qui est très impressionnant cette année, mais qu'on a souvent mentionné, mais qui vaut le coup qu'on s'y attarde, c'est qu'ils sont quand même à 5 victoires et 0 défaites quand ils sont menés à la mi-temps. Sur les 4 derniers matchs, ils étaient menés à la mi-temps, ils ont gagné les 4 derniers matchs. Ça en dit long sur la résilience, sur la capacité d'adaptation aussi de cette équipe-là. Et moi, c'est déjà un très bon argument. Il y en aura d'autres pour les Niners, mais moi, ça, c'est déjà un très bon argument pour les Eagles. Qu'est-ce que toi, cette stat t'inspire ?
Non, mais comme tu dis, ça montre déjà la qualité du coaching staff. Pour le coup, tout à l'heure, on parlait d'un coaching staff qui pose problème du côté de New Orleans. Je crois que du côté des Eagles, il y a moins de doutes sur celui-ci. Cette stat montre une capacité, que ce soit de l'attaque ou de la défense, de s'adapter à ce que propose l'adversaire, de trouver des solutions en cours de match. Donc c'est quand même hyper important à NFL d'avoir cette polyvalence-là. Ce que d'ailleurs, au passage, n'a pas forcément un Kyle Shanahan du côté de San Francisco. Quand ça se passe mal, souvent les 49ers, quand ils sont menés au score, ont du mal à remonter. Ça leur arrive pas souvent d'être menés au score, c'est l'avantage. Hein. Mais quand ça arrive, c'est un peu plus compliqué pour eux, ce qui n'est pas le cas des 49ers et des Eagles, pardon. Et ça monte, une équipe sûre de sa force. Pour moi, c'est et qui est sûre de sa force et surtout qui est polyvalente parce qu'elle a plusieurs manières de gagner. Ça peut être le sol, ça peut être les airs. Ça peut être la défense, donc ça va être important. Après, moi, j'avance un peu gentil, mais sur ce, vraiment, encore une fois, je crois que sur ce match-là, le match Philadelphie, à mon sens, ne peut gagner le match que grâce à son attaque cette semaine. C'est voilà, moi, c'est ce que je crois. J'ai peur que la défense des Eagles souffre face à l'attaque des 49ers. Il y a beaucoup de blessures au poste de linebacker. N'Kobe Dean, Cunningham s'est blessé sur le match la semaine dernière. Et donc, j'ai pas de doute sur le fait que les 49ers et Kyle Shanahan vont exploiter cette absence de linebacker avec McCaffrey, avec Kittle, vont attaquer le milieu du terrain. Et je pense qu'ils vont vraiment poser problème à la défense des Eagles. Et que donc, Philadelphie va prendre des points. Et que si tu prends des points, le seul moyen de t'en sortir, c'est d'en marquer plus.
C'est imparable. Côté 49ers, il y a un truc qui est impressionnant, c'est qu'ils font partie des équipes qui ont le plus de jeux de 20 yards ou plus, donc de gros gains en un coup. Je crois qu'ils sont numéro 5 en NFL. Et en même temps, c'est l'équipe qui en autorise le moins. Donc côté défensif, ils sont à égalité avec Kansas City sur cette stat-là. Ils ont autorisé seulement 31 jeux de 20 yards ou plus. Donc eux, et c'est souvent quelque chose qu'on dit, je trouve, avec cette équipe des 49ers, c'est qu'ils sont hyper équilibrés en attaque comme en défense. Et c'est peut-être ce qui va poser problème sur ce match-là, c'est qu'on l'a dit, en attaque, ils sont bien meilleurs que la défense sur le papier de Philadelphie. Et la défense va quand même poser des problèmes à Jalen Hurts et compagnie. Donc, est-ce que c'est un truc que les Eagles doivent essayer de faire selon toi? C'est peut-être de jouer plutôt du petit gain, du gain de ballon. On dit qu'ils ont plusieurs moyens de gagner. Est-ce que là, c'est de faire petit jeu au sol, gain de ballon, petite course de Jalen Hurts de temps en temps, machin, et essayer d'empêcher l'attaque de San Francisco d'aller sur le terrain?
Ouais, je pense qu'effectivement, en attaque pour Philadelphie, le jeu au sol va être hyper important. Donc là-dessus, il va falloir surveiller le retour ou pas de Lane Johnson, leur tackle droit. On a vu qu'il a beaucoup manqué la semaine dernière. Enfin, son absence s'est bien fait remarquer. S'il n'est pas là à nouveau, ça va être compliqué. S'il est là, c'est tout de suite un plus pour le jeu au sol. Mais je crois qu'effectivement, c'est le jeu au sol qui peut faire la différence côté Eagles. Parce qu'il va falloir maîtriser le chrono, il va falloir avancer, aller au physique. Et en fait, c'est le point fort des Eagles, c'est le jeu physique. C'est, leurs receveurs sont physiques, leur ligne offensive est physique. Donc il faut être capable d'imposer sa force au sol. Jalen Hurts est capable de courir, donc je te rejoins là-dessus. Je pense que c'est par le sol qu'ils peuvent gagner ce match. Et pour moi, effectivement, c'est là-dessus qu'ils vont devoir insister. Imposer le jeu au sol et de temps en temps aller trouver AJ Brown ou Devonta Smith sur des passes, peut-être le meilleur duo de receveurs de la ligue, et à l'exploiter quand la défense s'y attend pas, ce truc-là, donc le sol.
Je vais me prononcer, tiens, je vais tout de suite te dire ce que je pronostique sur ce match-là. Alors moi, il y a quand même deux trucs qui me font pencher, je l'ai dit tout à l'heure, le fait de ne pas perdre alors que tu es mené à la mi-temps 5 fois de suite, ça c'est quand même fort. Surtout, je vérifie en arrière là, ils ont gagné 27 des 29 derniers matchs. Ils n'ont perdu que 2 matchs en 29, enfin ça me paraît délirant comme résistant. Et surtout, ça se joue à Philadelphie, et j'ai l'impression qu'il y a quand même une espèce de vibe du côté de Philadelphie cette année, de revanche du Super Bowl, pas contre les Niners en l'occurrence, mais de vouloir y retourner, de vouloir le gagner. Jalen Hurts, on l'a dit, il marche sur l'eau, il court autant que vous voulez, il met un nombre de touchdowns incroyable. Bon, on a comparé à ça avec l'année où Cam Newton en met plein. C'est pas vraiment les mêmes genres de touchdowns. On va pas faire injure à Jalen Hurts, mais bon, voilà. Et en fait, moi, tout ça, mis bout à bout, je trouve qu'il y a quand même beaucoup de choses qui sont au-delà des stats que les Niners peuvent avoir sur le fait que leur attaque est meilleure que la défense de Philadelphie. Je trouve qu'il y a un état d'esprit, une espèce de d'abnégation. On est dans l'intangible, mais ouais, moi, j'ai du mal à pronostiquer contre ces Eagles cette année, et c'est pour ça que j'ai pronostiqué Philadelphie. Qu'en est-il de ton côté?
Je comprends. Je crois que j'ai mis... je vais aller sur San Francisco pour le moment. je pense que les quelques blessures absences côté défense des Eagles vont coûter cher. Et après, je vois un match serré. Hein, sincèrement, je pense que ça va se jouer à peu. Je vais aller sur San Francisco qui prend sa revanche. Mais ça ne veut pas dire pour autant que s'il se retrouve en finale NFC, ce soit à nouveau la même limonade. Je vais aller sur San Francisco parce que c'est pareil, c'est compliqué de faire plein de saisons à une seule défaite. Donc je pense que les Eagles vont peut-être en lâcher un autre, mais bon.
Ils ont un joker, hein. S'ils perdent, oui. Ils sont quand même tout premiers encore. Hein, donc là-dessus, c'est bon. Ok, voilà pour notre affiche de la semaine. Et nous, on va enchaîner avec tous les pronos de la semaine 13 après le
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
It's time, baby! Make it special tonight! Make tonight special!
It's our night, and it's our division. It's our time to go win it. We're gonna start fast and finish strong.
Yes, sir.
We're gonna work on three. One, two, three, work!
Alors Raphaël, c'est incroyable ce qui est en train de se passer du côté des pronos de la rédaction de Touchdown Actu, puisque Victor Roulier, j'ai regardé les stats, hein, Victor Roulier qui était dernier des pronos en semaine 6, est désormais premier à égalité avec Lucas Vola. Incroyable mais vrai, Lucas a complètement... Alors lui prétend qu'il l'avait annoncé comme machin, tu parles, il dit ça pour se prémunir des colibets, mais ça ne prend pas monsieur Vola. vous avez fait n'importe quoi et ça vous retombe dessus. Puisque la semaine dernière, Victor a fait 13, Alain a fait 12, Raphaël, tu as fait 11, j'ai fait 10 et Lucas 9, alors que Greg, qui avait tenté la semaine de tous les extrêmes, hein, et pour ça, je lui tire mon chapeau. Mais malheureusement, ça a complètement raté et fini à 6. Donc, d'abord, bravo et surtout merci parce que grâce à ça, je reviens dans la course. Puisqu'au total, donc Lucas et Victor sont à égalité. On a une égalité en tête à 117. Alain est juste derrière à 116. Toi, Raphaël, t'es un peu en poursuivant à 113 points. Et puis, il y a un petit groupe étau de retardataires avec Greg et moi à 108. Comme toujours, la fin de saison promet d'être aussi palpitante que la NFL. Donc, continuez de suivre tout ça. Et nous, on se lance dans les 13 matchs de la semaine 13. Raphaël, c'est parti. Le premier, c'est jeudi dans la nuit, juste de jeudi à vendredi à 2h15 du matin. Les Cowboys, 8 victoires, 3 défaites face aux Seahawks, 6 victoires et 5 défaites. Dallas qui n'a plus perdu à domicile depuis 13 matchs et qui met des peignées à chaque fois. C'est ce qu'on disait là dimanche dans le fauteuil, c'est qu'ils gagnent, mais ils gagnent bien, quoi. Et là, j'avoue que je les vois assez bien continuer sur cette dynamique.
Oui, oui, à la maison, ils sont sûrs de leur attaque, sûrs de leur défense. Enfin, ils sont vraiment depuis 2-3-4 semaines sûrs de leur force. Alors certes, ils n'ont pas toujours rencontré les adversaires les plus compliqués, mais malgré tout, il faut gagner comme ils le font. Comme toi, je vais aller sur les Cowboys, parce qu'en plus, je trouve que l'attaque de Seattle patine depuis 3-4 semaines. Et donc, j'ai du mal à aller voir suivre Dallas au scoring, donc je vais aller avec les Cowboys.
Une interception retourne à touchdown pour Darren Bland cette semaine ou pas?
Et bah je lui souhaite, hein, pourquoi pas, pour continuer à écrire l'histoire, mais là c'est, ça serait délirant.
Dimanche à 19h, les Texans, 6 victoires et 5 défaites face aux Broncos à 6 victoires et 5 défaites. Moi je suis toujours dans le train de la hype de Houston. Maintenant j'ai peur que Denver ait une vraie dynamique, que Stroud commence peut-être un peu à accuser le coup aussi de ce super début de saison, relativement. Et donc je suis assez... Bah, j'ai un peu peur, moi je vais pronostiquer les Texans, mais... Il est dur à pronostiquer ce match-là.
Dur à pronostiquer parce qu'effectivement, tu as deux équipes quand même pas trop mal. Hyper important pour les playoffs parce que c'est deux concurrents directs en AFC pour une place en wildcard.
Houston peut aller chercher la division, non? Ah non, il y a les
Bah, vu qu'ils viennent de perdre là, contre les Jags, ils ont pris un peu de retard. Mais disons que celui qui bat l'autre, ça lui donne un vrai joker pour la course aux playoffs.
Qui l'aurait cru que cette équipe-là pourrait...
Effectivement. Alors, ce qui permet à Denver d'en être là, c'est une défense qui va un peu mieux depuis plusieurs semaines. Mais malgré ça, moi, je vais aller sur Houston. Je crois que l'attaque de Houston a quand même les armes pour aller plus loin en termes de scoring que Denver. Et surtout, les Broncos ont trop de chance ces derniers temps en termes de turnover. Ils en sont à une quinzaine de turnovers sur les trois derniers matchs. Il y a un moment, ça va pas passer. Et quand ils auront pas autant de turnovers, ça va être compliqué. Et je pense que c'est cette semaine face aux Texans que ça va l'être. Et donc, je crois à l'attaque de Houston.
Allez, on est deux. Patriots, 2 victoires, 9 défaites. Chargers, 4 victoires, 7 défaites. Bon, si les Chargers passent celle-là, j'arrête tout. Moi, je raccroche, je referme, je m'intéresse plus à ça. Enfin, vraiment, là, c'est... J'ai l'impression que toutes les semaines avec San Diego, tu vois, c'est à tel point que ça me... Voilà. Avec Los Angeles, j'ai l'impression que toutes les semaines on dit « Non mais celui-là, ils peuvent pas le perdre !» Mais là, vraiment, celui-là, ils peuvent pas le perdre, Raphaël.
En théorie, non. En théorie, non, parce que la déliquescence dans laquelle les New England paraît beaucoup trop importante. Les Patriots sont incapables de marquer plus de 10 ou 15 points depuis plusieurs semaines. Bon, même si tout ne va pas bien à Los Angeles, normalement, l'attaque quand même de Justin Herbert arrive à mettre 20 points à peu près sans trop de difficultés, et 20 points les Patriots sont pas capables de le faire, même face à une défense faible ils ne sont pas capables, donc pareil que toi je vois Los Angeles, hein.
Et en même temps, est-ce que ce serait pas le truc le plus Chargers du monde de perdre face aux Patriots? Bon bref, allez, on va pas se porter l'œil. Les Chargers pour tout le monde. Saints, 5 victoires, 6 défaites. Lions, 8 victoires, 3 défaites. C'est le match de 6 plays, les amis, qui sera commenté par Luca Vola et Grégory Richard, je crois.
Tout à fait.
Ouais. Donc, et puis une affiche sympa, alors, sympa. On a parlé des Saints en début d'émission, et moi c'est un peu ça que je vais, qui va décider de mon choix sur ce match-là, c'est que je vois pas New Orleans tenir le rythme de l'attaque de Détroit, quand bien même la défense est forte chez les Saints, je pense qu'il y a une meilleure dynamique côté Lions, bon ça c'est évident, mais il y a des meilleurs atouts, voilà, on va dire ça.
Oui, 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 je vais aussi aller avec Détroit. C'est vrai que l'attaque de Détroit a perdu quelques ballons ces dernières semaines, Jared Goff notamment, et fait un peu plus d'erreurs. Maintenant, comme tu dis, malgré ces erreurs, ils arrivent quand même à marquer 25, 26 points par-ci, par-là. Ce que les Saints n'arrivent pas à faire depuis des semaines. Et alors, la défense de Détroit ne me rassure pas. Je pense qu'elle est prenable. Mais le problème, c'est que je ne sais pas si ces Saints-là sont capables de prendre la défense de Détroit. Parce que ce qu'ils montrent n'est pas bon. Et surtout, il y a beaucoup de blessés. Hein. Chris Olave a fini un peu blessé. Rashid Shaheed est sorti sur commotion. Michael Thomas est sur l'injury reserve. Bon, en bonne santé, il ne reste plus que Taysom Hill et Alvin Kamara. Ça ne fait pas beaucoup quand même pour Derek Carr. Donc, je vais aller avec Détroit aussi.
Détroit pour nous deux. Le match suivant, c'est les Jets à 4 victoires et 7 défaites face aux Falcons à 5 victoires et 6 défaites. Ça, c'est pas l'affiche la plus glamour de la semaine. Et en plus, elle n'est pas simple à pronostiquer parce que les Jets ont battu des équipes bien plus fortes que ces Falcons cette année. Par contre, il y a Tim Boyle.
Ouais.
Voilà. Bon, bah, du coup, moi, une fois que j'ai dit ça, je pronostique les Falcons.
Oui, je vais jouer aussi les Falcons qui sortent quand même d'une victoire contre les Saints. Donc, peut-être que ça crée un déclic, on va dire, chez eux. Mais leur attaque va être en difficulté face à la défense des Jets. Mais comme à peu près toutes les attaques sont en difficulté face à la défense des Jets. Après, les Jets défendent un peu moins bien contre la course. Atlanta court bien. Donc, c'est pour ça que je vais aller vers Atlanta. C'est parce qu'Atlanta court bien et je pense qu'ils vont marquer suffisamment de points pour qu'en fait l'attaque des Jets soit juste pas capable de suivre.
Oui, oui, oui. Non, c'est... Et même, ils ont pas besoin d'en marquer beaucoup. Hein.
Non, non. 15-16 points, je pense que ça suffit.
Oh, oui, oui, oui. Les Steelers à 7 victoires et 4 défaites face aux Cardinals à 2 victoires et 10 défaites. C'est un remake du Super Bowl d'il y a quelques années. Il y en a quelques-uns d'autres cette semaine de remake Super Bowl. Est-ce que c'est la bonne semaine pour Pittsburgh pour confirmer en attaque?
Oui, oui, a priori ça serait la bonne semaine parce que la défense des Cardinals n'est pas bonne et manque de talent. Donc c'est le moment de continuer sur la bonne dynamique et de te rassurer. Voilà, après, je pense que ça peut être un match pas si évident que ça non plus pour Pittsburgh. Les Cardinals perdent, mais sont pas non plus explosés, sont pas toujours ridicules. Donc, bon, un grain de sable dans la machine qui n'est pas une machine offensive des Steelers peut quand même enrayer tout ça très rapidement. Je vais aller sur Pittsburgh parce que voilà, ils sont à 7 victoires, ils ont une meilleure défense, mais... Franchement, tu me dis que les Cardinals embêtent les Steelers tout le match et que ça se joue à 3 points, je suis pas très étonné.
On va regarder la cote tout à l'heure, mais je crois qu'il y a peut-être un truc à faire avec les Cardinals. Les Titans à 4 victoires, 7 défaites face aux Colts à 6 victoires et 5 défaites. Les Colts qui font quand même leur petit bout de chemin, qui battent des équipes qui sont plus faibles qu'eux. Ils avaient gagné le match aller. Moi, j'ai assez tendance à croire à la victoire pour ce match retour face aux Titans.
Oui, 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 ils peuvent. T'as une équipe des Titans qui galère en attaque, on l'a dit, on l'a répété dans pas mal de podcasts débriefs, et face à une défense des Colts qui est plutôt pas mal. Donc je vois bien cette défense des Colts embêter l'attaque de Tennessee. Ce qui m'inquiète un petit peu, c'est la blessure de Jonathan Taylor.
Ouais, encore.
Au pouce, il va donc manquer ce match. Alors, donc les...
Il est out déjà, c'est
ouais,
sûr.
Ouais, ouais, il est out pour au moins 2 matchs. Donc ce qui fait que ça va être Zach Moss. Alors Zach Moss, ça avait été bon en début de saison. Il avait bien suppléé Taylor, donc ça peut continuer. De toute façon, je vais aller avec les Colts parce que j'ai envie que cette équipe continue à gagner. Je trouve qu'il y a une bonne dynamique pour la première année du coach, Station et tout. J'ai envie de les voir gagner, donc je vais aller sur les Colts. Ça va être serré parce que les Titans, c'est quand même chiant à jouer, on peut le dire. Mais Indianapolis.
Et à regarder. Oui, mais attention, Tennessee qui n'a pas perdu à domicile cette saison.
Ouais.
Je dis, mais en fait, c'est une fausse stat parce qu'ils n'ont pas perdu à Memphis. Ils ont perdu à Londres quand ils jouaient entre guillemets à domicile. Commanders, 4 victoires, 8 défaites face aux Dolphins, 8 victoires, 3 défaites. Ça aussi, c'était une ancienne affiche de Super Bowl, beaucoup plus ancien, mais en 72, quand les Dolphins faisant la saison parfaite, ils battent les Redskins
loin,
à l'époque.
T'es...
c'est mon travail, monsieur.
C'est
quoi le motif d'espoir pour Washington sur ce match-là? Que Well lance beaucoup de yards. Super, Tagovailoa aussi.
Ouais, ouais, très honnêtement, alors c'est la NFL, hein, tout est toujours possible, blabla, mais... Sur le papier, il n'y a pas match, parce qu'en fait, je ne vois pas... Le gros point faible de la défense des Commanders à l'heure actuelle, c'est leur cornerback. mince, ça tombe mal, c'est face à un des meilleurs duos de receveurs de la ligue, Waddle, Hill. Je vois pas comment ils les tiennent, je vois pas comment ils suivent le rythme, donc Miami.
Tiens, Hill, j'ai pas noté la stat parce que je veux pas vous abreuver de chiffres, mais qui a encore des records de précocité, de yards atteints en une saison. Enfin bref, c'est complètement absurde ce qu'il fait. Donc oui, Dolphins pour tout le monde. À 22h05, on a les Buccaneers, 4 victoires, 7 défaites face aux Panthers à 1 victoire et 10 défaites. Tant pas, c'est pas l'équipe de l'année, hein, mais les Panthers, c'est l'équipe de la pas-année, je sais pas comment on peut dire ouais. Ça. Ah, voilà, là, faut pas pousser, normalement, c'est largement dans leur corde.
Qui ont viré cette semaine Frank Reich, hein, leur
en
coach.
Plus. Ah, attention, alors, l'effet oui. Nouveau coach, l'effet ça nouveau peut toujours jouer. Hein.
Des fois, ça arrive, hein, quand il y a un changement de coach, l'équipe gagne le premier match un peu, genre, et puis bon, après, ça revient vite dans le rang, mais...
Ah ouais, mais là, honteux pour le Tampa s'ils perdent.
Non, mais pareil que toi, j'y crois pas, Tampa est meilleur en attaque, Tampa est meilleur en défense, j'y vais avec Tampa, enfin...
Il n'y a pas de débat. Dimanche à 22h25, les Rams à 5 victoires et 6 défaites face aux Browns à 7 victoires et 4 défaites. Ça, c'est plutôt une belle affiche. D'autant que, on est dans les historiques, l'origine des Rams, c'est Cleveland. Donc, c'est deux équipes qui, à une époque, ont joué dans des époques différentes pour la même ville. Et là, pour le coup, l'opposition attaque des Rams, défendre des Browns. Moi, j'aime bien. Ça peut être rigolo à regarder. Mmh. Et en fait, moi, j'ai presque... Et je vais le faire. Je vais tenter les Rams. Je vais tenter les Rams sur ce match parce que s'il y a quelques trucs qui arrivent à passer en attaque, je pense que côté Cleveland, on n'arrivera pas trop à suivre.
Ouais.
Faut que ça passe en attaque, mais pourquoi pas.
Oui, je suis d'accord avec toi. Si Los Angeles arrive à emballer le match offensivement, Cleveland aura du mal à suivre. Il y a à ce niveau-là, il y a le retour au sol de Kyren Williams, hein, qui a fait un super match la semaine dernière, qui va continuer, à mon avis, continuer à soulager Matthew Stafford et permettre aux Rams de bien avancer. D'autant plus que Myles Garrett a quand même fini le match blessé côté Cleveland la semaine dernière. Donc autant dire que s'il n'y a pas Myles Garrett en défense, moi ça me fait clairement pencher du côté de Los Angeles. On ne sait pas encore à l'heure actuelle. Mais bon, on se prononce maintenant, donc on est un mercredi soir. Donc, donc voilà, je vais aller avec Los Angeles pour ça. Incertitude sur Myles Garrett et une attaque des Rams qui va aller mieux. Donc Los Angeles.
Et puis bah, le dernier match de dimanche à 22h25, c'est le Eagles 10 victoires 1 défaite, 49ers 8 victoires 3 défaites. On en a parlé en préambule, je ne l'ai pas dit, mais Philadelphie peut être la première équipe qualifiée en playoff s'ils gagnent, et en gros que soit les Rams ne gagnent pas, soit que Green Bay et Détroit perdent. Vous pourrez retrouver sur le site les détails, mais c'est l'idée quoi. Donc voilà, toi t'as pris les 49ers.
Ouais.
Et moi les Eagles. Le Sunday Night Football dans la nuit de dimanche à lundi à 2h20, c'est le Packers, 5 victoires 6 défaites, pardon, face aux Chiefs, c'est 8 victoires 3 défaites. Là aussi, affiche d'un Super Bowl, le tout premier du nom. Et surtout, les Chiefs, c'est la première équipe face à laquelle Jordan Love avait joué en NFL quand il avait remplacé Rodgers en 2021 au cours d'un match. Jordan Love qui va de mieux en mieux, on en a parlé dimanche. Cette équipe de Green Bay qui a une attaque qui commence à prendre forme.
Oui.
Il y a peut-être une marche qui est un peu haute.
Voilà.
Avec Kansas City en face, mais l'opposition est plus sympa que si on me l'avait présenté il y a 3 semaines, tu vois. Moi, c'est un Monday Night Football qui est vraiment sympa.
Non, mais exactement. Tu l'as dit, il y a cette équipe de Green Bay qui va mieux en attaque et donc forcément ça aide. Le souci, c'est qu'actuellement la défense de Kansas City, c'est le point fort de Kansas City. Donc là, ils vont vraiment affronter une défense très très solide. Ça va être un vrai test hein, pour Jordan Love d'ailleurs, pour savoir où il en est, cet affrontement contre une des meilleures défenses de la ligue. Ça va permettre de le jauger. Donc là-dessus, comme toi, j'ai assez hâte de voir ça. Malgré tout, je vais quand même aller avec Kansas City parce que la défense de Kansas City, je pense, va remporter ce duel. Et qu'en plus, Patrick Mahomes a semblé trouver enfin un peu d'alchimie avec ses receveurs la semaine dernière. Il faut continuer sur ce rythme. Mais je pense que Kansas City, le tout dans le tout, a de quoi dépasser quand même Green Bay.
Quoi ? Il n'y a pas que Travis Kelce à la réception chez les Chiefs ?
Eh bien non, peut-être plus, on n'est pas sûr, cela dit,
on verra. Et enfin, on finit avec le Monday Night Football dans la nuit de lundi à mardi à 2h15, avec les Jaguars à 8 victoires, 3 défaites, qui reçoivent les Bengals à 5 victoires et 6 défaites, le duel des félins de la NFL. Un duel sympa, tiens, qui était un peu mis en avant sur les différentes stats de la NFL, le duel entre Jamar Chase et Darius Williams, le cornerback des Jaguars, qui sont tous les deux... très en avance dans les statistiques en termes de réception, interception, yard, tout ce que vous voulez à leur poste respectif, et qui est surtout un affrontement qui avait déjà eu lieu au Super Bowl entre les Rams et les Bengals, puisqu'à l'époque Darius Williams jouait chez les Rams. Voilà, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce match-là?
Ouais, mais si tu me permets, la petite différence, c'est qu'il n'y a pas, Joe Burrow pour lancer le ballon. C'est la petite différence quand même par rapport au Super Bowl.
Différence, est-ce qu'il y aura vraiment si au final, c'est pas les Bengals qui gagnent?
Non, sur le résultat final, il y aura peut-être pas de différence, mais sur le duel Chase-Williams, il risque d'être un peu moins passionnant parce que...
Chase un peu moins mis en valeur.
Voilà, c'est ça. De toute façon, là, honnêtement, avec l'absence de Burrow jusqu'à la fin de saison, Cincinnati va traverser la fin de saison comme une âme en peine.
Bon, une étoile filante.
Non, mais c'est ça. En défense, ils peuvent poser problème à l'attaque de Jacksonville, mais on les voit mal pouvoir embêter en attaque. Et du coup, je vais aller sur Jacksonville qui va confirmer son statut en AFC Sud.
Ouais, et puis même en AFC tout court, Jacksonville, c'est quand même 7 victoires sur les 8 derniers matchs. La seule défaite, c'est face aux 49ers, ce qui est loin d'être infamant. Donc là, on est sur des dynamiques qui sont tout à fait opposées. Et c'est comme ça qu'on conclut notre tour d'horizon, puisque les Bills, les Bears, les Riders, les Vikings, les Giants et les Ravens sont au repos. On leur souhaite une bonne semaine. On remercie les Riders, les Bears et les Giants de nous laisser profiter un peu de la NFL sans eux. Et nous, on va profiter des cotes juste après le jingle. Les cotes de la semaine qui sont présentées comme d'habitude par notre partenaire Unibet. N'hésitez pas à passer par le lien qui est sur le site pour aller vous inscrire et pour faire tous vos pronos sur la NFL. Qu'est-ce qu'on a cette semaine, Raphaël? Tu vois, tout à l'heure, j'ai teasé les Cardinals. Bon, je suis un tout petit peu déçu. Je pensais que ce serait encore plus fou que ça. Non, en revanche, moi, il y a un truc qui me choque.
Ouais.
C'est que tout à l'heure, j'ai fait le malin en disant « Ah, les Rams sont favoris. Enfin, les Rams, je tente le truc, machin. » Et en fait, c'est les Rams qui sont favoris. Et largement, les Browns sont à 2,24.
Ouais. Oui.
Ça me paraît énorme.
C'est à l'extérieur. Il y a Miles Garrett. Il y a quand même une attaque qui avance plus. C'est peut-être ça qui refroidit.
Il y a pas Deshaun Watson.
Ouais. Et Amari Cooper s'est blessé aussi. Donc, c'est vrai que bon, si ça commence à faire beaucoup, je trouve. Donc, je peux comprendre que les Rams soient favoris.
Ah, mais à ce point-là
Je peux comprendre.
Parce que du coup, moi, ça me donne presque envie de pronostiquer les Browns. Pardon. Dans un contexte hypothétique où on miserait pour essayer d'avoir une cote sympa, moi, j'aurais pu voir les Browns. Non, en revanche, le truc, c'est que moi, les Eagles à 2,05, j'y vais.
Non, mais faut y aller parce que cette année, t'auras peu de chances de voir les Eagles à 2. Oui. Donc, s'il y a un moment où il faut jouer les Eagles à 2, c'est le seul moment de l'année, donc autant y aller, quoi. Enfin, je suis d'accord.
C'est clair et net.
Ça, oui.
Du coup, j'ai dit les Cardinals à 2,65, on peut peut-être se les garder sous le coude.
Ouais.
Broncos j'allais te dire. J'allais t'en demander une, et j'avais les Broncos sous les yeux en 3ème au cas où. Les Broncos à 2,27. Face aux Texans, on l'a dit, les Texans, c'est un tout petit peu moins bien. Donc, les Broncos, il y a une vraie belle dynamique. 2,27, moi, ça me plaît bien.
Ouais, Broncos.
Et du coup, en troisième. Non, du coup, les Bengals, faut pas déconner.
Non.
Qu'est-ce qu'on peut mettre en troisième? Est-ce que. Bah non, Colts, Titans, je trouve que le match est un peu trop serré, même si du coup, les Colts que je vois meilleurs à 1,71, c'est sympa.
On parie pas sur le jeudi soir, trop tard?
Non, on le fait pas normalement. Ouais. C'est vrai que sinon, les Seahawks à 3,45, c'était une très belle cote. Mais bon, non, pas trop.
Après, ouais, les Titans.
Les Jets à 2,05?
Pourquoi pas? Un match serré défensivement, Desmond Ridder qui craque.
Ou alors, parce que l'avantage c'est qu'on peut prendre des favoris aussi un peu de temps en temps. Et les Colts, c'est un 71, c'est la meilleure cote des favoris. Je regarde. Les Lions, c'est un 40, c'est pas ce qu'il y a de plus reluisant.
En 71, les Colts, ça me va.
Franchement, pour une équipe favorite. Moi, j'aime bien faire des petits trucs comme ça, quoi.
Ouais.
Ah ben, allez, on dit ça. Denver Broncos à 2,27, Colts à 1,71 et Eagles à 2,05. Pour 5 euros de mise, vous avez une cote de 7,96 et donc des gains potentiels de 39,79 €. Ça, c'est pas mal. Maintenant, rigolons un petit peu. Moi, je veux bien mettre les Cardinals.
Allez.
On met les Patriots. Les Patriots à 2,72 face aux Chargers. C'est des Chargers.
Je t'aurais plutôt dit à la limite les Saints, tu vois.
À 2,38, oui. Ouais, ok.
Okay, parce que les Saints, ils peuvent marquer des points. Les Patriots, je ne suis pas sûr. Donc,
Oui, mais les Chargers, ils sont capables de
d'encaisser
faire,
des points.
D'encaisser des points, de faire des points perdus.
Est-ce que c'est pas
de
trop évident finalement que les Chargers perdent contre les Patriots? Tu vois, c'est presque trop évident comme défaite. Du coup, ils le feront pas. Tu vois ce que je veux dire?
Non, et puis surtout, à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Enfin, je veux dire, si vous pronostiquez les Patriots et que vous gagnez de l'argent. C'est pas très sympa, quoi. Vraiment, peu de mérite. Donc, non, ok. Dans le YOLO, alors, la plus grosse cote de la semaine, hors Seahawks, qui était le premier match, c'est les Commanders à 3,50 face aux Dolphins. Non, ça sert à rien, vous allez perdre de l'argent, ne faites pas ça.
Sinon, les Browns, hein, 30%.
Bah oui, c'est ce que j'allais te dire.
Qui ont quand même une bonne défense.
Ouais, alors on a quand même dit en long et en large que ils avaient peu de chances de gagner. Est-ce que les Packers face aux Chiefs, tu vois, les Chiefs, ils ont pas été ultra dominants toute l'année, hein.
Non, c'est vrai, mais tu verrais plus les Packers que les Browns.
Ça se joue à Green Bay. Il va faire très froid.
Mm-hmm. Ouais.
Tout est possible.
Si tu veux, écoute.
On est en YOLO. Attends, regarde, je fais un test. Je clique sur les Packers. Je regarde le score, le résultat.
Ah
okay.
Oui,
et maintenant, l'autre que tu m'as dit, les Browns. Ah. Ouais, la différence n'est pas énorme, mais bon. On passe à une centaine supérieure, quoi.
Non, mais si tu veux, c'est un YOLO.
Oui, hein, allez. Bien sûr, le YOLO, vous savez, on fait ça pour voir un peu ce que ça donne. Évidemment, ne misez pas sur ce pari, sur ce combiné-là, si vous n'avez pas l'intention de pouvoir perdre à un moment. Mais donc, je vous le rappelle, les Broncos à 2,27, on avait dit les Colts à 1,71 et les Eagles à 0,05. On rajoute à ça les Saints à 2,38, les Cardinals à 2,65 et les Packers à 2,72. Et là, mesdames et messieurs, pour 5 euros misés, on a une cote de 136,51. Et donc, avec le Multimax Freebet, on a 733,36 euros de gain potentiel. C'est sympa. C'est sympa.
C'est pas mal. C'est pas mal.
Mais bon.
C'est clair.
Mais bon, on l'a dit, faites attention quand vous... Oula, pardon, j'en tape le micro. Faites attention quand vous pariez en ligne. Ne misez que ce que vous pouvez vous permettre. Et si vous sentez que vous perdez le contrôle et que vous perdez le plaisir, n'hésitez pas à vous faire aider. Il y a plein de manières de le faire. Et ben voilà, Raphaël, on a fait le tour de la question.
Ouais.
Merci à toutes et tous de nous avoir écoutés. Retrouvez-nous sur toutes les plateformes de podcast en laissant les étoiles, en vous abonnant, en faisant tout ce que vous pouvez voulez à chaque fois. Et sur tous les réseaux sociaux, que ce soit Twitter, Instagram, TikTok, bien sûr, on est très présent sur TikTok. @touch dans l'actu, @tdactu, et évidemment sur tdactu.com pour retrouver tous les articles et toute l'actu de la NFL. Merci beaucoup, Raphaël.
Merci à toi, c'était un plaisir.
Mais plaisir, comme toujours, partagé. Vous pouvez évidemment soutenir Touchdown Actu aussi si vous le voulez en vous inscrivant sur Tipeee. C'est vrai que je ne le rappelle pas assez, mais si vous voulez avoir des super goodies aussi à chaque fois, on est en train de faire, je crois, des nouveaux sous-verts, si j'en crois les discussions dans le chat. Donc n'hésitez pas à y aller, à aider le site. C'est une belle manière aussi de nous soutenir. Donc merci beaucoup pour ceux qui le font et merci à tous ceux qui le feront par la suite. Cette sortie était beaucoup trop longue, donc je vais lancer le jingle. Merci beaucoup, on se retrouve très bientôt pour plein d'autres podcasts sur la draft, sur les fantasy et sur le fauteuil dimanche. Bonne semaine à toutes et tous, salut !